France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Aujourd'hui, troisième et dernier volet de l'entretien que Gaël Le Gallic avait réalisé avec la pianiste et chef de chant Janine Reiss en 2002. La musicienne évoque aujourd'hui son expérience au cinéma auprès des réalisateurs Joseph Losey et Francesco Rosi, dont elle fut la conseillère musicale pour leur film Don Giovanni et Carmen. Il sera aussi question de Gilbert Bécaud et de son opéra d'Aran, mais tout de suite Janine Reiss nous raconte sa collaboration avec Denise Duval et Francis Poulenc pour l'élaboration de La Voix humaine, l'opéra signé de Jean Cocteau et de Francis Poulenc.
Tout ce qui concerne la voix humaine est une véritable passion pour vous, Janine Reiss, qu'il s'agisse de l'expression parler ou chanter.
Vous savez, il y a tellement de choses qui passent par la voix. Même la voix parlée. On entend parfois dans la voix parlée des couleurs qui vous indiquent si c'est le ciel, si c'est la nuit, si c'est le paradis ou si c'est l'enfer. La voix humaine vous donne toutes ces possibilités. Quelquefois, c'est redoutable.
Allô ? Allô ? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez ! Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez-vous-même. Allô, mademoiselle ? Mais non ! Ce n'est pas le docteur Schmitt. 08, pas 07. Allô? C'est ridicule. On me demande. Je ne sais pas. Allô? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment ma faute? Pas du tout. Allô, mademoiselle ? Dites à cette dame de se retirer. Allô ? C'est toi ? Oui, très bien. C'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non, c'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appelé. Oh, non, non. J'ai dîné dehors, chez Marthe. Il doit être 11h15. Tu es chez toi. Alors regarde la pendule électrique. C'est ce que je pensais. Oui, oui, mon chéri, hier soir.
1959, La Voix humaine, Cocteau, Poulenc, Denise Duval et vous-même, Janine Reiss, qui avez étroitement collaboré au travail sur cette œuvre.
Ça me rappelle tellement, tellement d'heures de bonheur traversées avec Denise. Une interprète incomparable. J'ai beaucoup... Vous savez, là aussi, c'est une autre chance. Elle est arrivée chez moi, envoyée par la radio. Elle a débarqué un jour chez moi, rue de Courcelles, et elle avait quelque chose à travailler, je ne me souviens plus, pour la radio. Et elle m'a dit... Suzanne Sarocca aussi a été envoyée chez moi, comme ça, par la radio. Et elles m'ont tenu toutes les deux à peu près le même langage. Denise m'a retéléphoné le lendemain matin et elle m'a dit, écoutez, on s'est rencontrés par hasard, par la radio, etc. Moi, je ne veux plus qu'il y ait de hasard. J'ai envie de travailler avec vous. Et donc, pendant des années, nous avons partagé tout son travail. Et la voix humaine me rappelle, non seulement m'émeut parce que c'est une interprète fabuleuse, c'est Georges Prêtre qui dirige, là. Et elle a adoré, comme Maria Callas, d'ailleurs, travailler avec Georges Prêtre. Par son, l'instinct musical, la passion de Georges Prêtre est une chose qui a quand même séduit beaucoup de grands interprètes. Et lorsque nous travaillions des choses comme ce qu'elle avait à chanter, vous voyez son répertoire, ses tournées, etc. Un jour, elle m'a dit « Écoute, Poupoule », car c'était le surnom dont elle avait affublé Francis Poulenc, est en train de m'écrire un texte, de m'écrire un opéra en un acte sur un texte de Jean Cocteau. Et voilà, il va en apporter tout à l'heure quelques extraits. Donc, Monsieur Francis Poulenc est arrivé chez moi avec des feuilles manuscrites qui secouaient comme ça devant nous. Et j'étais au piano et elle m'a dit « Bah, vas-y, tu déchiffres ». Et alors, on lisait au fur et à mesure. Et elle lui disait, ah, écoute, Poupoule, hein, tu comprends, le texte est très important parce que c'est du Cocteau et c'est très beau. Alors là, tu vois, c'est un petit peu trop aigu. Alors il faut que, oh, écoute-moi, Denise, tu peux le faire. Oui, mais je peux le chanter naturellement, mais tu comprends, c'est un opéra à dire, à jouer, c'est tellement important, l'interprétation du texte. D'ailleurs, elle en donne une démonstration éblouissante hein, là-dedans. Et donc, petit à petit, il a porté les pages de la voix humaine.
En le travaillant tous les trois, vous, Francis Poulenc,
voilà,
et Denise
Duval. Et puis une autre fois, c'est eux qui m'ont fait rencontrer Pierre Bernac, car ils partaient en tournée, Denise et Francis Poulenc, pour une tournée de récital, tous les deux, où elle faisait en première partie des mélodies, et en deuxième partie la voix humaine. Accompagné donc au piano par Francis Poulenc, qui maintenant, enfin, dont, pas lui maintenant, parce que malheureusement il est mort, mais ses héritiers ne veulent plus qu'on fasse la voix humaine en public accompagnée au piano. Seulement M. Poulenc avait le droit de le faire, il faut que ce soit avec un orchestre.
J'aimerais que tu ne descendes pas à l'autel où nous descendons. Tu n'es pas fâchée parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas, ou bien elles existent dans une espèce de lieu très vague et qui fait moins de mal. Tu comprends? Merci. Merci. Tu es bon. Je t'aime.
Saisissant final de La Voix humaine de Poulenc, saisissante Denise Duval dans ce rôle. Jeanine Rice, dans une production lyrique, quels sont les rapports musicaux entre le chef d'orchestre et le maître de chant? On a parfois le sentiment que le métier de chef de chant est un métier relativement récent. Est-ce que cela signifie que dans le passé, le chef d'orchestre faisait davantage office de maestro di canto qu'aujourd'hui?
Oui, il y avait beaucoup plus de chefs d'orchestre qui faisaient office de cela. Vous savez, on dit toujours que les grands Furtwängler, Bruno Walter, ces gens-là, il y a beaucoup de photos d'eux que l'on voit au piano, en train d'accompagner les chanteurs. Et par exemple, moi j'ai connu, c'est tout à fait au XXe siècle, j'ai beaucoup travaillé avec M. Scholti, qui par exemple était là à la première répétition piano, qui suivait toutes les répétitions de mise en scène, car il estimait, et moi j'estime que c'est très très important, qu'il avait son mot à dire, car certaines mises en scène sont très dérangeantes pour l'équilibre acoustique, pour la projection de la voix, etc. Et sans être esclave de cela, il faut quand même quelqu'un des deux côtés de la balance pour dire « ça va bien pour moi, ah ben tant mieux parce que ça va bien pour moi aussi ». Ou alors « ça va bien pour moi, ben non, pour moi ça ne va pas du tout ». Et il est vrai que, malgré tout, certains chefs d'orchestre pris par des carrières internationales ont tendance à, alors justement, à remettre les rênes en main de quelqu'un comme moi, moi ou quelqu'un d'autre, hein, qui va prendre un peu le relais, dire par exemple à l'assistant du chef d'orchestre « attention ». C'est trop fort, attention, les basses sont... Voilà, etc., etc. Vous voyez ?
Maître de chant est l'alter ego du chef d'orchestre.
En quelque sorte, vous savez, j'ai une très très longue route derrière moi. Quand un chef d'orchestre accepte qu'on m'engage dans un théâtre, c'est parce que d'avance, il admet mon travail. Par exemple, bon, M. Gall dira ici à Paris, « Voulez-vous Jeanine Rice pour les études musicales ?» Il est en droit de dire oui ou non. Voilà, ça lui appartient. Mais bon, par exemple, si Monsieur Ozawa vient diriger un opéra en France à Paris, en français à Paris, là aussi, c'est lui qui dit I would like Jeanine with me. Donc, enfin, je l'adore celui-là. C'est vraiment, il est tout ce que j'aime parce que il est la sensibilité, il est l'écoute du chanteur, l'écoute de la musique. Alors voilà, le chef d'orchestre, il est obligé de savoir qui on va lui mettre dans les pattes. Donc, il est parfaitement en droit de dire je n'en veux pas. À ce moment-là, voilà, il fait son affaire lui-même. Bon, alors bien sûr que maintenant, il y a... Alors, en ce qui concerne M. von Karajan, c'est Michel Glotz qui, un jour... là, j'ai aussi cru que c'était une blague de mon fils. Et d'ailleurs, mon mari avait coutume de pauvre Francis, comme vous dites, toujours accusé à tort. Mon mari me disait, mais c'est quand même curieux, tu sais, il faudrait te faire soigner, parce qu'à chaque fois qu'on te prononce un nom dans le métier qui est important, tu dis, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Il se trompe, c'est pas moi. Bon, donc, et je crois qu'il faut vraiment garder ça aussi longtemps qu'on le peut, comme ça, c'est le bonheur, vous comprenez, quand on vous dit « oui, c'est bien vous ». Alors, Michel Glotz m'a téléphoné en me disant « écoutez, voilà, M. von Karajan a l'intention d'enregistrer Pélléas et Mélisande à Berlin, et je voudrais que vous soyez son chef d'étude ». Bon, donc, je suis allée à Berlin, et tout de suite, M. von Karajan a été avec moi extrêmement courtois, écouteur, et il m'a dit d'emblée, à la première répétition au piano, « Madame, je vous ai fait venir parce que je sais que vous connaissez très bien Pélléas, et je sais que quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Alors, à chaque répétition, ce sera à vous de parler. » Et ça s'est passé comme ça, et j'ai travaillé 10 ans au moins avec lui, pour des Carmen, enfin voilà, pour beaucoup de choses, des enregistrements aussi, pour lesquels il me faisait venir, revenir, et moi j'ai eu un contact absolument merveilleux, et j'étais tout à fait libre de faire mon métier comme je le faisais. Parce que c'est un métier qui, dans le fond, est mal connu, donc étant mal connu, il est mal aimé. Vous voyez,
pour certains, c'est pour certains, la carrière de chef d'orchestre ratée, c'est la carrière de pianiste ratée.
Bravo.
Il faut dire les choses.
C'est exactement ça.
Oui.
Voilà. Vous savez, qu'est-ce que l'on est, nous, dans notre métier pour le chanteur ? On est un miroir. On est un miroir qui entend et qui regarde. Le chanteur n'a qu'une impression inexacte pour son malheur de ce qu'il produit. D'abord, il n'a pas une écoute absolue de sa propre voix, parce qu'il s'entend avec son oreille interne. La première fois que vous vous entendez en enregistrement, même votre voix parlée, vous ne reconnaissez pas la voix dont vous avez l'habitude, la voix qui vit avec vous, vous ne la reconnaissez pas. Donc, pour le chant, c'est la même chose. En plus de ça, il faut le regarder pour voir si ses expressions correspondent à ce qu'il ressent, s'il ne fait pas de gestes de main inutiles, distrayants pour le public, au sens propre du terme. Et puis après, quand vient ce réglage, ce travail de fond, commence l'autre travail qui est la ligne droite pour arriver devant le public, c'est-à-dire où chacun s'exprime, où chacun doit écouter l'autre, et où surtout il faut toujours rappeler à un chanteur, même le plus grand, que pendant qu'on lui joue des mesures où il n'a plus à chanter, on continue de chanter pour lui, avec lui, et que la musique qui le précède ou qui le suit, c'est toujours lui. Et on retrouve d'ailleurs cela dans un opéra, quand un orchestre fait une entrée ou un commentaire, un épilogue, ce sont toujours les sentiments dramatiques du chanteur qui l'expriment. Mmh. Bon, donc voilà. Alors, bien sûr, plus le niveau de votre chanteur est élevé, plus il le comprend de lui-même. Il y a une question d'équilibre sonore aussi à mettre au point. Vous savez, il y a la fameuse histoire de Gerald Moore qui avait écrit un livre très amusant qui s'appelle Am I Too Loud? Est-ce que je joue trop fort? Parce que très souvent, on a. Soit des remarques amicales quelquefois, ou de ne pas jouer assez fort, ou de jouer trop fort et de couvrir la voix du chanteur. Mais là aussi, moi j'aime bien, en dernier lieu de préparation d'un récital, que quelqu'un en qui j'ai confiance vienne à une certaine distance écouter ce que l'on fait et nous dise ce qu'il reçoit. Aussi, il y a une histoire de l'émotion. Vous savez, moi, il m'est arrivé de voir près de moi des artistes qui manifestement ressentaient une émotion intérieure très vive et très profonde. Et c'est très très douloureux ça, leur affaire. Il faut choisir le moment, les mots, la manière de dire, en bref, là je fais un raccourci, ce que vous ressentez c'est certainement très fort, mais ce qu'il faut c'est que ceux qui sont en face de vous le ressentent.
Ah oui.
Car ça n'a rien à voir. Il y a ce fameux paradoxe du comédien, qui est le paradoxe du chanteur, de se distancier soi-même pour arriver à faire passer cette émotion qui ne doit plus être votre émotion. La grande qualité d'un grand interprète, c'est de disparaître complètement aux yeux de ceux qui le regardent et qu'il écoute, jusqu'à ce que l'autre, c'est-à-dire le spectateur, ne voit plus que le personnage.
Et ça, vous êtes ce premier spectateur.
Je suis ce premier spectateur.
Thank you.
Petite transcription du Così fan tutte de Mozart par l'ensemble avant Maurice Bourg. Un autre grand moment dans votre carrière, Jeanine Reiss, une autre création, l'Opéra d'Arane de Gilbert Bécaud.
Soir, Maureen, j'ai vu Sean qui s'en allait. Ça m'a donné l'envie de te faire compagnie un moment.
J'aurais choisi ces ouvrages que vous faites passer pour me les faire entendre. Je ne les aurais pas aussi bien choisis. Parce que vous, je sais pas, vous avez fait une espèce d'échantillonnage de ma vie.
Qui sont des moments importants pour vous, qui
étaient très, très importants.
Et pourtant, ce passage de l'Opéra d'Arane de Gilbert Bécaud, ça n'est pas cette version sur laquelle vous avez travaillé, puisque Bécaud a voulu y revenir après.
Oui.
Et il y a ce mélange de voix de variété, donc où il chante Mickey.
Absolument.
Et la voix de Maureen, Suzanne Sarocca.
Oui, oui. Exactement. Mais il y avait un mélange de toutes sortes dans cet opéra d'Arane, parce que aussi, vous savez, Georges Prêtre avait beaucoup collaboré à l'orchestration.
Oui.
C'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivée au théâtre des Champs-Élysées.
Oui.
Et donc, j'ai travaillé. Il y avait deux grands artistes. Il y avait Isabelle Garcisson, que j'ai vue hier soir.
Qui chantait La Mer.
Qui Marin. Chantait. Oui, c'est ça.
Oui.
Il y avait Rosanna Carteri,
oui, qui chantait Maureen.
Isabelle Garcisson chantait Maureen aussi.
Oui. Quelle belle culture. Avait...
Oh, c'est beau, écoutez comme c'est beau.
Toujours prêt à rêver, Mickey d'Arane.
Rêver, c'est partir. Partir, c'est placer les rêves qu'on fait dans un monde vrai. Par-delà les flots, l'île d'Angelo nous fait le cadeau de son bal d'été.
C'est de la vraie musique, hein? Est-ce qu'on le donne encore, l'Opéra d'Arane?
Alors, on a eu ce grand bonheur de rencontrer Gilbert Bécaud, auquel on a consacré deux émissions, comme on le fait avec vous. Oui. On a longuement parlé d'Arane, justement. Et il disait, jusqu'au dernier mois de sa vie, que dès qu'un Opéra d'Arane se donnait quelque part dans le monde, il y allait.
Il y allait.
Pour faire travailler, être
oui,
là,
oui, mais
présent.
Être là, présent, bien sûr.
C'est un ouvrage qui a été donné à Toulon, à l'Opéra de Toulon, il y a un an ou deux. C'est pas la musicienne que vous êtes que j'apprendrai que le rôle de Maureen est redoutable parce que l'écriture est vraiment terrible. Qu'est-ce que vous avez vous gardé comme souvenir de toute cette période? Ça a été un déchaînement. Gilbert Bécaud en avait beaucoup souffert parce qu'il avait quand même cette base classique absolument indéniable et il a mal vécu cette période-là. Quel souvenir vous en avez?
Vous savez, comment peut-on bien vivre lorsqu'on présente au monde un enfant qu'on a fait soi-même et que le monde n'est pas unanime à vous dire qu'il est le plus beau.
Ne reconnaît pas, oui.
Vous voyez, il avait été pourtant remarquablement bien servi. Je ne sais pas. Vous savez, il y a quelquefois, je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu la gentry parisienne qui a quelquefois un peu des refus, même avant de voir le spectacle, vous voyez.
Vous aviez accepté comment, Jeanine Reiss, de travailler sur cet ouvrage? C'est Georges Prêtre qui vous l'avait demandé?
Georges Prêtre me l'avait demandé.
Ou est-ce que le fait qu'on vous dise que Gilbert Bécaud avait écrit un opéra, quelle a été votre réaction?
Georges Prêtre me l'avait demandé, et comme, vous savez, c'est à Georges Prêtre que je dois d'être allée la première fois à la Scala. Georges Prêtre m'a beaucoup fait travailler pour des enregistrements, pour plein de choses. Donc, pour moi, Georges Prêtre étant dans un ouvrage...
Il croyait à cet opéra, lui.
Ah, tout à fait. Il a même, comme je vous le disais, aidé à l'orchestration, parce que, bon, il a voulu faire une orchestration plus classique. Vous savez qu'il écrit de la musique, Georges Prêtre.
Ouais.
Et il écrit de la musique, dite légère, qui n'est pas forcément légère, qui peut être très profonde. C'est un très bon compositeur.
Et il a travaillé avec Gilbert Bécaud à l'orchestration.
Alors, il a travaillé avec Gilbert Bécaud à l'orchestration, et puis après, je me suis fait envoyer la partition. Et j'ai travaillé donc au théâtre des Champs-Élysées avec Madame Wallmann.
Margarita Wallmann, qui
faisait la mise en scène. Parfois, elle me demandait de venir m'asseoir près d'elle dans la salle pour voir ce qui se passait, lui dire ce que je voulais, comment je voyais les choses, comment je les entendais, enfin...
Et voilà. Beko était très présent ?
Beko était beaucoup là. Pas forcément à toutes les répétitions, mais beaucoup là, oui.
Voilà, Angelo et Maureen, la fille des îles d'Arran, seront englouties par les flots en voulant quitter ces îles du nord de l'Irlande pour le soleil de l'Italie. Le final de l'opéra d'Arran de Gilbert Beko sous la direction de Georges Prêtre. Janine Reiss, une autre aventure et non des moindres, l'opéra sur grand écran avec le film de Francesco Rosi autour de la Carmen de Bizet et Joseph Losey et son Don Giovanni.
Le Don Giovanni, c'était l'époque Rolf Liebermann.
Oui.
Donc, je faisais des continuos à l'Opéra de Paris. Je faisais travailler tous les artistes qui étaient dans la distribution. Donc, il n'a pas fait un choix. Il m'a dit, c'est vous, et puis voilà. Donc, lorsque Joseph Losey a accepté de la part de Rolf Liebermann de faire ce film, il a demandé de venir chez moi pendant une semaine tous les jours pour entendre Don Giovanni.
Que vous lui jouiez au piano ?
Exactement.
Ou vous écoutiez
il
ensemble
m'a dit,
un enregistrement ?
Non, pas du tout. Il m'a dit, je ne veux pas entendre des disques parce que j'ai entendu une quantité de disques.
Oui.
Alors, ce que je voudrais, c'est que vous vous mettiez au piano, que vous me chantiez comme ça, certains rôles, que vous me disiez certains récitatifs, que vous... J'ai toute la traduction absolue. Il avait fait un travail de préparation comme seuls les grands hommes... Et les grandes femmes le font. Donc, toute une semaine, il est venu chez moi et il me disait, là, j'entends quelque chose qui change. Oui, c'est une modulation. Alors là, je ne peux pas faire une découpe. Vous voyez ? Bon. Et nous avons fait ce travail de détail et de précision pendant une semaine. Et le dernier jour, il m'a embrassé très gentiment et il m'a dit... Merci infiniment, Janine. Cette semaine a été très, très profitable pour moi. Alors moi, pauvre petite, je saute de joie et il me dit, je ne ferai pas ce film. Je lui dis, pardon. Il me dit, non, je ne ferai pas ce film parce que pour oser mettre la main sur Mozart, il faut être quelqu'un que je ne suis pas. C'est une autre leçon de modestie qui vous fait beaucoup réfléchir sur l'ego de beaucoup d'autres. Alors... La seule réponse que j'ai trouvée à lui faire et qui était tout à fait spontanée, je lui ai dit « Est-ce que vous croyez que Rolf Liebermann connaît Mozart ?» Oh, il m'a dit « Mais naturellement, quelle question ! Est-ce que vous croyez qu'il aurait pu se tromper à ce point-là en vous demandant de vous occuper de Mozart ?» Et il m'a
redoutable.
Dit...
Redoutable.
Et il m'a dit « Je crois que je vais réfléchir un peu et je vous téléphonerai demain. » Le lendemain, c'était un dimanche... Et il m'a téléphoné en me disant « Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai envie de dire oui, mais ce n'est pas encore absolument décidé. Alors je vous retéléphonerai plus tard. » Et il m'a téléphoné probablement 2 jours après en me disant oui. Je dis oui parce que voilà, j'avais déjà imaginé tout un plan, Vicenza, Venezia, tout ça. Voilà, j'ai une très belle distribution. Voilà. Alors on a fait de l'enregistrement naturellement seulement en chant et orchestre à l'église du Liban, ici à Paris, dans laquelle on fait beaucoup d'enregistrements. Mais les récitatifs ne peuvent être faits que live, vous voyez ?
Ah oui.
Parce que alors là, le playback est impossible à faire. C'est trop difficile de suivre la parole et de tomber juste pour les acteurs sur les récitatifs qui disposent toujours d'une certaine liberté. Les silences leur appartiennent, le rythme, vous voyez, c'est plus libre qu'un récitatif accompagné de l'orchestre. Donc j'ai eu, encore une fois, la chance indicible de me trouver pendant, je sais pas, au moins 3 mois, entre Vicenza, où on a tourné dans le théâtre antique de Vicenza, Venise, enfin, vous voyez ça, vous imaginez de tourner les récitatifs dans une espèce de ferme qui avait été installée là, et on a tourné dans des villas palladiennes absolument authentiques. Dans lesquels certains des propriétaires de ces villas, qui étaient des descendants, pour la plupart du temps, des premiers propriétaires de ces villas du temps de Palladio, acceptaient de faire de la figuration dans le film. Et donc, vous voyez, sans les connaître naturellement, des gens qui sont costumés comme les artistes, assis dans le salon où, par exemple, Edda Moser, Donna Anna, chante.
Entourée des maîtres des lieux.
Entourée des maîtres des lieux. Et alors il y a une scène au château de Vicenza, au palais, au théâtre antique, veux-je dire, de Vicenza, où un jour Joseph Losey m'a dit « Je voudrais que vous figuriez dans ce film ». En somme, le clavecin ne figurait jamais dans ce film.
Oui.
Il m'a dit, je vais vous mettre sur la scène du théâtre antique. Et alors là, on a demandé à Monsieur Salieri, qui était le costumier de ce film, de me donner un costume. Et il m'a donné, et à l'époque, je pouvais peut-être prétendre un tout petit peu moins antique, une perruque blanche, mais pas poudrée, pas la perruque poudrée, ouais. Vous voyez, et un costume de vieille dame dans lequel j'étais de toute façon. Je m'en suis souvenue longtemps après, quand j'ai vu le film. Mais je ne sais même pas si vous me verrez, parce que, bon, voilà, ben Joseph Losey était heureux de
lui faire ce petit hommage. Une participation,
voilà. Alors écoutez, le film Don Giovanni, non pas du tout parce que j'y ai participé si modestement que cela soit, mais on peut dire haut et ferme que l'on n'a pas touché une note de ce Don Giovanni. On n'a fait aucune atteinte à la musique de Mozart. Il était sous bonne garde. Il y avait M. Liebermann, qui est venu plusieurs fois pendant le tournage, mais qui est venu tout le temps à l'enregistrement.
Oui.
Comme vous le savez, il était dirigé par Laurine Mazel. Mais quand Joseph Losey est parti de chez moi et qu'il m'a dit « Je ne peux pas faire ce film parce que je n'ai pas le droit de toucher à Mozart », il m'a dit, après, quand nous avons commencé le tournage, « Pour rien au monde, c'est un opéra qui a sa propre longueur, mais pour rien au monde, je ne ferai, comme on fait dans certains films d'opéra, des coupures. Ou nous faisons le film comme l'opéra a été écrit, ou nous ne le faisons pas. » Alors, dans ce cas-là, bravo pour le film d'opéra. Vous savez, il arrive des choses très intéressantes pendant un tournage. Par exemple, les hommes de toute catégorie dans les films qui transportent les câbles, qui tiennent les micros, qui tiennent la perche, enfin, etc. La plupart de ces deux équipes, qui étaient une équipe franco-italienne pour les besoins de la chose, n'avaient jamais ni entendu un opéra, ni vu des chanteurs d'opéra de près. Voilà. Alors, au début, je voyais bien qu'ils étaient complètement déroutés et moi j'aime bien voir et parler avec des gens qui ne font pas ce que je fais, je m'intéresse à leur métier, je les regarde même si je leur parle pas, puis je leur parle aussi. Bon, alors au début ils me disaient, vous me faisaient des remarques assez drôles, ça vous plaît vous cette musique ? ti piace questa musica? Alors je disais, mais bah, oui, bien sûr, mais c'est toute ma vie, cette musique, etc. Eh bien, c'est vrai ce que je vais vous dire encore une fois, là, maintenant. À la fin du film, il sifflait des airs.
Que vieni alla finestra, oh mio tesoro, che vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dare quella che
Ruggero Raimondi au cinéma, le Don Giovanni de Joseph Losey, accompagné au clavecin par Jeanine Reiss, que l'on retrouve tout de suite.
Alors, je me dis avec raison que c'est aussi une approche du grand public que de produire des films d'opéra. À un moment donné, c'était vraiment l'obsession de Toscan du Plantier. Carmen, bon, bien sûr, Carmen, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus populaire que Don Giovanni, mais je crois que Carmen a quand même touché beaucoup plus de spectateurs, avec aussi bon, la vision de Francesco Rosi, naturellement, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'y a pas de clavecin dans Carmen.
Non, mais j'étais quand même sur le tournage.
Oui, parce que j'étais sur le tournage. Oui. Pour tout, alors, aussi pour le playback, parce qu'il fallait que je regarde très attentivement si les mouvements de bouche des chanteurs correspondaient au texte que j'entendais. Et puis, parce que, bon, Francesco Rosi, qui m'avait connu là pendant l'enregistrement, qui s'est fait ici à la Maison de la Radio, au 104, sous aussi la direction de Laurine Mazel. Donc, il venait très souvent, à la suite d'une scène tournée, me dire est-ce que c'était bien ?
Oui.
Alors que moi, je ne pouvais plus rien faire, ni musicalement, ni vocalement. Oui, mais est-ce que c'était bien pour l'expression ?
Voilà,
est-ce que l'expression correspondait à ce que tu entendais ? Est-ce que... Alors, voilà.
Il vous semble qu'avec ces deux expériences de film, votre approche scénique dans un travail musical est un peu différente, par exemple avec les jeunes chanteurs du Centre de formation lyrique que vous coachez, pardonnez-moi le terme, enfin que vous dirigez, que vous menez actuellement.
Écoutez, non, parce que j'ai toujours été, mais ça me vient de mon enfance, j'ai toujours été une obsédée du texte. Voilà. Oui. Parce que nous étions dans notre famille des malades de lecture, de littérature, de classicisme. Donc, pour moi, la première fois que j'ai lu un lied, j'ai lu le texte d'abord. Donc, si vous voulez, j'ai toujours été comme ça, mais ça n'est, c'est pas ma faute, madame, je ne suis pas coupable.
Je ne vous punirai pas, c'est promis. Jeanine Reiss, une dernière chose, enfin, il y aurait encore énormément de choses à aborder. Nous disions tout à l'heure que ce métier de chef de chant s'enseignait. Qu'est-ce qui s'apprend dans ce métier ?
Je vais commencer par ce qui ne s'apprend pas et je vais peut-être vous surprendre parce que tout à l'heure, j'ai dit le contraire de ce que je vais vous dire maintenant, mais c'était parallèle, mais c'était pas exactement... De la même, ça partait pas exactement de la même idée. Je crois que la première qualité humaine dans ce métier-là, c'est l'altruisme. Il ne faut jamais oublier que quoi que vous ayez à faire, vous, pianistiquement, musicalement, vous devez toujours ne penser qu'à l'autre. Celui qui est à côté de vous ou ceux qui sont à côté de vous. Car on travaille avec des êtres qui sont fragiles. Les chanteurs sont incroyablement fragiles. Ils sont fragilisés par la peur vocale, ils sont fragilisés par l'idée que la mémoire peut leur manquer, ça c'est comme les acteurs, ils ont des tas de fragilités que moi j'aime, qui me fait les respecter beaucoup, qui me fait comprendre que c'est très difficile. Et si vous leur laissez, comme ils font tout de mémoire, si vous leur laissez passer une seule fois une faute, ils l'enregistrent presque à vie. Si vous saviez combien de fois il m'est arrivé à quelqu'un qui a beaucoup chanté un rôle en scène, avec d'excellents chefs d'orchestre, etc., mais qui ont beaucoup à faire, l'orchestre, l'écoute, la scène et tout ce que comporte un opéra, de leur dire, excusez-moi, je voudrais bien que vous rechantiez cette phrase, parce que je crois que, voilà, comme ma première histoire avec Lucienne Marais, et qui sont atterrés d'avoir appris un fa dièse à la place d'un fa naturel, et qui me disent, je ne m'en suis jamais rendu compte. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vous destiner à ce métier de chef de chant, il faut bien sûr aimer la voix, vous l'avez dit, et c'est très vrai, mais il faut aimer aider l'autre, l'écouter avec humanité. Mais voilà, la chose la plus difficile, c'est d'associer l'humanité et la sévérité.
Elle est admirable, ma chère, mais nous avons besoin de vous, oui, nous avons besoin de vous, 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 on ne fait jamais rien de bien.
Entre nous,
Le fameux quintet de Carmen, l'un des ensembles les plus difficiles à mettre au point musicalement, extrait de la bande originale du film réalisé par Francesco Rosi avec Julia Méganès et Placido Domingo, enregistrement au travail duquel Janine Rice a largement contribué en qualité de responsable des études musicales. Alors Janine Rice, eh bien, elle a aussi accompagné les plus grands en récital. Elle continue aujourd'hui à transmettre au Centre de formation lyrique de l'Opéra de Paris, puisqu'elle dirige non seulement les études musicales des jeunes chanteurs, mais elle enseigne également ce qu'est le travail de chef de chant aux jeunes pianistes qui entendent bien prendre la relève. Vous avez dit vocation ?
Ainsi s'achève la troisième et dernière partie de La mémoire retrouvée de Janine Rice, une émission de Gaël Le Gallic diffusée sur France Musique en 2002. Je vous propose, pour conclure nos trésors du jour, d'écouter un extrait de l'acte 1 de Carmen, l'opéra de Bizet que Francesco Rosi a adapté au cinéma en 1984, un film dont Janine Rice fut la conseillère musicale. Thank you.
città.
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
C'était un extrait de l'acte 1 de Carmen de Bizet avec Julia Migenes et l'Orchestre National de France que dirigeait Laurine Mazel, une version enregistrée pour le film de Francesco Rosi dont Janine Rice fut la conseillère musicale. Tout le programme, le podcast et la réécoute de nos archives sont disponibles sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation avec Adelino Mello à la prise de son en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.